Invite à trouver dans vos Bibles le Cantique des Cantiques, c'est juste après Ecclésiaste. Cantique des Cantiques, on va lire ce matin les verset 15 du chapitre 1er jusqu'au verset 7 du chapitre 2. Donc Cantique des Cantiques à partir du verset 15 du premier chapitre jusqu'au verset 7 du chapitre 2. Et pour la lecture de la parole de Dieu, je vous invite à vous lever. Cantique des Cantiques, verset 15. Que tu es belle, ma compagne, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Les solives de nos maisons sont des cèdres. Nos lambris sont des cypres. Je suis le narcisse du Saron. Le lys des vallées, comme un lys au milieu des ajoncs, telle est ma compagne parmi les jeunes filles. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, telle est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. À son ombre, j'ai désiré m'asseoir et son fruit est doux à mon palais. Il m'a introduite dans la maison du vin et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, rafraîchissez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles, par les biches de la campagne, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne souhaite. Prions. Père éternel, Dieu d'amour, par le nom précieux de ton Fils en qui tu nous as aimés, et par la puissance de ton Esprit Saint, nous te prions ce matin, parle-nous, et nous te supplions, enseigne-nous ce que nous ne savons pas, donne-nous ce que nous n'avons pas, et fais de nous ce que nous ne sommes pas, à ta gloire seule. Amen. Veuillez prendre place. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Ainsi a parlé une certaine Édith. Ou encore, je t'aime tant, peut-être maladroitement, mais sans détour, comme peut aimer un enfant, tremblant d'amour. Je t'aime tant d'un amour pur et merveilleux et perdument. Ça, c'était Monsieur Aznavour. Et je l'ai cité ce matin pour ensuite poser la question suivante. Quelle est la différence entre ces chansons et ce cantique que nous avons sous les yeux ce matin? Quelle est la différence? Bien évidemment, il y a une différence clé, c'est qu'avec celui-ci, il s'agit de la parole de Dieu. Donc ça, c'est une différence importante. Mais en termes du contenu, où est la différence? Oui, ce cantique est beaucoup plus ancien et contient plein d'images de fleurs et d'animaux. Mais la différence n'est pas aussi grande que ça, n'est-ce pas? Du moins pour les extraits que j'ai cités. Nous avons ici une chanson qui nous présente un homme et une femme qui sont profondément fous amoureux. Dans la première partie, c'est le couple qui parle entre eux. Et dans la deuxième partie, c'est elle qui parle avec ses amis à propos de lui. Et ce couple est fou amoureux. Et pourtant, on trouve ce chant d'amour, dans la Bible. C'est un chant que Dieu lui-même nous a donné. Mais peut-être que certains d'entre vous, et surtout les plus jeunes ici, peut-être, vous vous dites, c'est juste un tas de trucs de bisounours, ça ne m'intéresse absolument pas, je vais vraiment pas écouter tout ça aujourd'hui, surtout pas à l'église, non merci. Mais ne vous inquiétez pas, parce que cette chanson parle bien de beaucoup plus que ça, donc ne vous inquiétez pas. Pensons d'abord à la section de la Bible dans laquelle nous nous trouvons. Oui, on est dans la partie qui s'appelle les écrits, et plus particulièrement les livres de la sagesse. Ce beau cantique, ce cantique des cantiques, le meilleur cantique, essaye de nous enseigner un peu de sagesse. On verra plus tard qu'il s'agit de bien plus que juste un truc de bisounours. Alors je n'ai pas vérifié, mais je ne pense pas que l'instruction dans la sagesse faisait partie de l'objectif ni d'Edith Piaf ni de Charles Aznavour. C'est donc un des éléments clés ou une spécificité unique que nous avons ici dans le cantique des cantiques. Alors comment ce cantique d'amour passionné peut-il nous enseigner de la sagesse? Pour trouver la réponse, pour comprendre la leçon, il faut qu'on aille faire quelques sorties sur le terrain pour apprendre. Et donc nous irons à 4 endroits différents pour apprendre 4 leçons différentes. Donc 4 endroits et 4 leçons. Et avec un peu de chance, et avec l'aide de Dieu surtout, on se couchera un peu plus sage. On démarre, et à juste titre ici, à la galerie d'art, où le titre de la leçon sera « C'est ça ». Puis il faudra aller au champ de bataille, où le titre de la leçon sera « Ce n'est pas toujours ça ». Ensuite, il faut aller à la salle de sport pour apprendre « Ce n'est pas ça ». Et enfin, le temple pour apprendre « C'est ça ». Donc, la galerie d'art où on apprend « C'est ça ». La galerie d'art. Et en arrivant à la galerie d'art, nous voyons dans ce passage ce beau tableau qui représente l'amour et le mariage tel que Dieu l'a imaginé, tel qu'il l'a conçu et créé. Et en le regardant, vous pensez à tous les critiques que vous avez lues au sujet de cette œuvre. Et il est clair que cette œuvre a été sous-estimée et de loin. C'est meilleur que ce que disaient tous les scientifiques. C'est meilleur que tout ce que disait la culture. C'est franchement meilleur que ce que la plupart des chrétiens disaient. C'est tout simplement époustouflant. Et lorsque vous regardez ce beau tableau, vous vous rendez compte que nous avons massivement démantelé ce qu'est vraiment l'amour et le mariage. Nous l'avons démonté. Et je ne parle pas seulement de modifier les définitions juridiques de qui peut épouser qui ou modifier les normes en matière de divorce. Là, ça en fait juste une petite partie de comment on a démonté le mariage. Ça va beaucoup plus loin. Nous avons démantelé le mariage petit à petit. J'ai une petite blague avec ma mère au sujet d'un politicien britannique appelé Malcolm Rifkind. Vous ne connaîtrez sûrement pas, même au Royaume-Uni, les gens ne connaîtraient sûrement pas. Je pense qu'il était plutôt actif dans les années 80. Mais c'est un homme plutôt distingué, droit, sérieux. Et un soir, il y a longtemps, il passait sur la télé, et je ne me rappelle plus pourquoi, mais c'était sur un reportage sur quelque chose. Et tout d'un coup, ma mère m'a dit qu'elle s'était toujours demandé comment ce monsieur Malcolm Rifkind parlait avec son épouse. Parce que c'était un homme si sérieux. Et donc, elle faisait une drôle d'imitation de la façon dont elle imagine qu'il parle à son épouse. Donc, bonjour ma chérie, je vous aime beaucoup, comment allez-vous? Alors, ça pourrait faire une injustice totale à monsieur Rifkind, je ne sais pas du tout. Mais je pense que beaucoup d'entre nous peuvent penser que la Bible ressemble un peu à ce monsieur-là. Voici donc deux personnes qui sont tombées follement amoureuses. Puis la Bible arrive et parle à la Malcolm Rifkind. C'est très bien que vous aimeriez être ensemble, mais nous devons organiser une cérémonie légale pour vous maintenant. Et voici le contrat que vous devez signer, promettant de rester ensemble aussi longtemps que vous viviez tous les deux. Et voici les règles, et voici la liste de vos tâches. Et tant que vous ne faites pas ceci ou cela, vous êtes prêt à partir. Mais juste n'amusez-vous pas trop. Il faut être honnête, s'il y a ceux qui croient que la Bible est un peu comme ça, c'est parce qu'il y a des chrétiens qui sont un peu comme ça. Mais même le père de l'Église, Augustin, avant sa conversion, il vivait vraiment dans l'immoralité sexuelle, mais il est allé jusqu'au point, après sa conversion, de dire que la voie idéale, ce serait le mariage, mais sans rapport sexuel. Ce serait juste un mariage complètement chaste. Mais vous trouverez une description tout aussi froide que cela dans la façon dont les scientifiques pourraient décrire l'amour et le mariage, où il s'agit tout simplement de s'accoupler et perpétuer ses gènes. C'est froid et clinique, n'est-ce pas? Et puis à l'autre extrême, notre culture présente tout ce qui est amour comme étant uniquement question de sentiments, de désirs, de passions. L'amour, c'est l'amour et c'est tout. Qui on aime, combien de personnes on aime, si on aime quelqu'un exclusivement ou pas, la durée de la relation, avec tout ça, ça n'a aucune importance. Moins il y a de règles et de règlements, mieux c'est. Prenez les choses comme elles viennent, faites ce que vous voulez. Presque toutes les définitions de l'amour et du mariage se concentrent presque exclusivement sur une seule partie du tableau. Et ils ignorent le reste. Mais voici ce que nous voyons lorsque nous regardons la situation dans son ensemble. Quand on voit la beauté, on est à bout de souffle. C'est particulièrement vrai pour l'homme. Peut-être c'est pour ça qu'il parle si peu ici. Elle lui a coupé le souffle. Mais le verset 15, il dit « Voici que tu es belle, ma compagne, que tu es belle !» Eh bien, c'est un peu une traduction à la Malcolm Rifkin, ça, en fait. Ce petit mot « voici », c'est correct, mais au moins dans ce contexte-là, une meilleure traduction, je dirais, serait « Waouh ! Qu'est-ce que tu es belle !» Les commentateurs bibliques passent beaucoup de temps à se demander pourquoi c'est l'image des colombes qu'il utilise pour décrire ses yeux. Eh bien, c'est leur travail de poser ce genre de questions. Plusieurs dans l'histoire de l'Église ont pris des références aux colombes dans ce livre comme étant des allusions au Saint-Esprit. Et il se peut bien qu'ils disent quelque chose sur la façon dont sa pureté et sa sainteté la rendent attirante, peut-être. Mais au moins, on peut voir qu'il est fasciné quand il regarde dans ses yeux. Sa beauté l'éblouit. Par contre, quant à elle, elle ne pense pas qu'elle ait quelque chose de spécial. Dans le verset 1er du chapitre 2, « Je suis un narcisse de Saron. » Elle ne se glorifie pas. Saron était une plaine avec beaucoup de fleurs sauvages. Donc elle dit « Je suis qu'un narcisse, je suis qu'une fleur sauvage. » Et puis un lys des vallées, un muguet, quoi. Je suis une petite fleur parmi tous les petits lys dans la vallée qui sont à l'appel. Elle est vraiment très autocritique ici. Mais quant à lui, il ne veut rien entendre de tout cela. Verset 2, elle est comme un lys au milieu des ajoncs, parmi les ronces. Elle n'est pas comme les autres. Il ne s'intéresse absolument pas à d'autres personnes. Quand le jour viendra, où il verra arriver au mariage, quoi qu'elle puisse penser d'elle-même, et quoi qu'en pensent les autres, pour lui, c'est la plus belle femme du monde. Et pour elle aussi, lui, c'est comme un pommier qui se démarque totalement de l'arrière-plan générique d'une forêt. Et puis, on voit qu'il y a du délice dans les différences. La façon dont ils se complimentent l'un de l'autre le montre. Donc, ce ne sont pas des partenaires interchangeables. L'homme et la femme sont distincts et ont un rôle différent à jouer dans le cantique. Il n'y aurait aucun sens d'échanger l'homme contre une femme ou la femme contre un homme, ici. Alors qu'elle est un lys au milieu des ajoncs, lui c'est un arbre au milieu de la forêt. L'idée est similaire, mais des images différentes. Et en regardant des rôles différents qu'ils accomplissent aussi, on le voit ça. Mais en regardant les rôles différents, on voit qu'il y a de la passion dans le côté pratique. Il décrit ici beaucoup de détails pratiques de ce qu'est le mariage. Quand elle dit que leur canapé est vert ou verdoyant, leur lit est verdoyant, avec le cèdre et le pin qui tiennent leur maison. Elle ne dit pas qu'elle aime passer du temps à l'extérieur. Il y a certains commentateurs qui disent que c'est ça, mais ce n'est pas ça. Elle pense à la fertilité et à la façon dont elle aimerait que leur famille grandisse au fur et à mesure qu'ils ont des enfants. Elle pense aussi à la relation qui dure comme une maison solide. Il y a une stabilité dans la relation. Puis, plus tard dans le verset 3, elle le voit comme un pommier qui lui donne de l'ombre et lui fournit des pommes douces. Elle parle de la façon dont il protège, il la protège et pourvoit à ses besoins aussi. Lorsqu'elle pense à l'idée d'être avec lui dans la maison du vin, c'est-à-dire la salle du banquet, elle est assise sous la bannière de son tribut ou sa bannière militaire. C'est une image de la façon dont elle se soumet à lui. Cette ligne à la fin du verset 4 est une très belle façon poétique de dire ce que Paul dirait plus tard dans Éphésiens 5. Quand il dit « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari. Mari, aimez chacun votre femme. » Mais il est intéressant de noter qu'elle ne chante pas d'abord une grande chanson de son charme et sa beauté, et ensuite elle ne fait qu'énumérer les choses pratiques. En plus, oui, il est vraiment super, mais en plus, j'aimerais aussi que nous élevions des enfants ensemble, j'aimerais qu'on soit ensemble pour longtemps, j'aimerais qu'il me protège et qu'il pourvoie mes besoins, et moi j'aimerais bien pouvoir me soumettre à lui, etc. Non, tout ça, même tout le côté pratique fait partie du chant. C'est le sujet de son chant. Donc tout cela vaut la peine d'être chanté. Et c'est en grande partie parce que l'homme prend la responsabilité d'en faire un sujet digne d'être chanté. Il s'assure qu'il est le genre de personne avec qui elle voudrait vivre. Quand il protège et quand il pourvoit à ses besoins, il s'assure que ce qu'il fournit est doux et beau. Et les détails de ce que ça veut dire pour un mari de protéger et de pouvoir aux besoins de son épouse, les détails sont différents pour chaque couple, selon les personnalités, les besoins, les dons, les talents, etc. Mais quelle que soit la façon dont il protège, il pourvoit à ses besoins, la façon dont il le fait donne envie à cette fille de chanter. Et la raison pour laquelle c'est une telle joie pour elle de se soumettre à lui, de s'asseoir sous sa bannière tribale, c'est parce que sa bannière sur elle, verset 4, c'est l'amour. Donc vous qui êtes mari ou fiancé ou mari potentiel, quelle bannière voulez-vous faire flotter au-dessus de vos familles? Est-ce le contrôle? Est-ce la popularité, le succès, ou est-ce de l'amour? Ceux qui vous connaissent le mieux, vous et votre famille, peuvent-ils vous regarder et dire « Voilà un mari et un père dont la bannière sur la famille est l'amour. » Un homme qui protège, qui pourvoit et qui aime. Donc on est venu à la galerie d'art et on a vu ici que c'est ça. C'est ça l'amour et le mariage. C'est ce que Dieu a conçu. C'est beau, c'est grand, c'est robuste, c'est riche, c'est beau. Mais on ne peut pas vivre dans des galeries d'art. Il nous faut ensuite passer un peu de temps pour la deuxième leçon sur le champ de bataille, pour apprendre et reconnaître que ce n'est pas toujours ça. Le champ de bataille, où on voit que ce n'est pas toujours ça. Cette belle image montre la conception de l'amour et du mariage, mais il y a un sens dans lequel c'est hors de portée. Et cela en différentes manières pour chacun ici, mais hors de portée de toute façon. Ce domaine de notre vie est un champ de bataille, d'une façon ou d'une autre. Pour certains, c'est hors de portée parce que même si vous pensez que Dieu vous a particulièrement donné les dons pour le célibat, c'est là où vous êtes et vous attendez depuis longtemps. Peut-être pour certains d'entre vous, vous ne vous sentez pas particulièrement capable de vouloir ce que représentait ce tableau. Quand vous pensez à l'amour et au romantisme, vous êtes plutôt tenté de désirer ce que Dieu a interdit. Ou bien, même si vous êtes attiré par cette vision du mariage, vous êtes toujours tenté de chercher le plaisir et l'épanouissement ailleurs pendant que vous attendez. Pour certains, il semble hors de portée parce qu'il est vu dans le passé, par la douleur du deuil ou la tragédie du divorce peut-être. Et cela peut être un champ de bataille également pour ceux qui sont mariés actuellement. Peut-être faire face à la difficulté de ne pas voir la famille s'agrandir comme vous le souhaitiez. La douleur de l'infertilité ou de la perte d'enfants. Ou simplement les jours où on a l'impression de se battre pour garder les solives et les lambris en place et continuer à s'aimer. Pour d'autres, c'est encore pire que cela, où au lieu d'être un lieu de bonheur et de plaisir, d'approvisionnement et de protection, la maison est devenue le danger dont il faut se protéger. Les statistiques que l'on peut trouver sur les violences conjugales, et on a beaucoup entendu parler, surtout pendant le confinement, ils montrent que ce n'est pas un problème qui touche un ou deux ici et là. Donc il vaut donc la peine de le dire, juste au cas où, que si c'est quelque chose que vit quelqu'un ici, en ce moment, s'il vous plaît, demandez de l'aide de la police, de nous les pasteurs, des amis en qui vous faites confiance. Et si c'est à vous que quelqu'un vient pour demander de l'aide, même si vous avez du mal à croire ce que vous entendez, prenez au sérieux ce que vous entendez. Il y a toute une série de façons dont, dans ce monde, depuis la Genèse 3, cette chanson est hors de portée pour tout le monde, d'une façon ou d'une autre. Elle peut même toucher une corde sensible. Et dans ce texte, nous voyons la femme qui fait face à une sorte de lutte elle-même aussi. Dans le verset 5 du chapitre 2, nous voyons qu'elle est malade d'amour. Et cela ne veut pas dire qu'elle s'évanouit à sa vue, mais dans l'Ancien Monde, être malade d'amour était toujours lié à l'absence de quelqu'un. Elle est malade d'amour parce qu'il n'est pas là, il lui manque. Cette section du livre décrit probablement une période avant le mariage même, et le mariage a lieu probablement vers le chapitre 4. Et le verset 6, elle veut qu'il soit là pour l'embrasser, mais il n'est pas là. Il est absent en ce moment et elle attend. Et donc, elle se tourne donc vers ses amis pour l'aider à s'en sortir, pour la soutenir avec des raisins, pour la rafraîchir et avec des pommes. Parce que c'est dur de l'attendre si longtemps. Et cela nous rappelle l'importance de ne pas affronter la bataille tout seul. Quelles que soient nos douleurs et nos luttes particulières, tout comme elle se tourne vers ses amis, nous n'avons pas besoin de faire semblant que nos vies sont toutes paisibles. Et nous pouvons et nous devrions nous tourner les uns vers les autres pour nous aider, pour nourrir, rafraîchir. Et bien qu'il y ait un niveau approprié de discrétion dans notre façon de parler de ce domaine de notre vie, c'est toujours une partie importante de notre vie où il vaut la peine d'être ouverte et de chercher le soutien d'amis pour vivre avec sagesse dans notre situation particulière. Mais si nous regardons cette belle image, même pour ceux qui sont heureux dans leur mariage, il n'y a pas toujours ce niveau d'excitation, n'est-ce pas? L'auteur C.S. Lewis, qui a écrit les livres de Narnia, entre autres, il dit que ce n'est même pas ce que l'on aimerait vivre tout le temps. Il dit ceci, et je cite, « Si le vieux conte fait, qui se termine par « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », veut dire « ils se sont sentis pendant les 50 années suivantes exactement comme ils se sentaient la veille de leur mariage », alors on dit ce qui n'a probablement jamais été vrai et ne le serait jamais vrai, et ne serait même pas désirable si c'était vrai. Qui pourrait supporter de vivre dans cette excitation pendant même 5 ans? Qu'adviendrait-il de son travail, de son appétit, de son sommeil, de ses amitiés? Fin de citation. Cette belle image nous dépasse tous. Elle n'est pas réaliste et même pas désirable pour chaque minute de la vie. Et si c'est le cas, Il doit y avoir quelque chose de plus dans ce cantique qu'un simple chant d'amour entre un homme et une femme. Mais nous avons deux autres endroits à visiter pour comprendre ce qui se passe. Donc, troisième visite, c'est à la salle de sport pour apprendre « c'est pas ça ». Donc la salle de sport où on apprend que ce n'est pas ça. Lorsqu'on va dans une salle de sport, ce que l'on fait avec chaque équipement pourrait être plus ou moins semblable aux activités qu'on fait dans la vie réelle, n'est-ce pas? Donc d'un côté, il y a des steppers, par exemple, c'est un mini-escalator, où les mouvements que l'on fait ressemblent beaucoup aux mouvements qu'on fait avec un vrai escalier. Donc, quelque part, ça ne sert à rien, il faut juste trouver un escalier. Mais on a des rameurs, où ce que l'on fait est en gros ce qu'on ferait dans une barque. Donc, c'est les mêmes mouvements, etc. Mais de l'autre côté, il y a des appareils de musculation, etc., qui permettent de bouger, de soulever des poids d'une manière qu'on a rarement besoin de bouger et soulever dans la vie normale, mais qui sont des exercices qui nous gardent en forme de manière plus générale, qui nous fortifient de manière générale. Et le cantique des cantiques est comme les deux extrêmes en même temps. D'une part, on peut glaner tout ce qu'il y a à dire sur l'amour et le mariage. Il y a beaucoup à apprendre. D'autre part, comme on a observé le commentateur et un de mes anciens professeurs, en fait, Ian Duguid, le Cantique des Cantiques, c'est un livre qui parle du désir. C'est un livre sur le désir, de façon générale. Il ne s'agit pas uniquement de trucs de bisounours. Il s'agit plus globalement du désir. Je ne sais pas quand a été la première fois que chacun ici a prononcé les mots « je veux », mais je peux garantir que ça faisait déjà un bon moment que vous aviez exprimé que vous vouliez quelque chose, des années avant peut-être. Le plus jeune bébé n'est peut-être pas capable d'exprimer ce qu'il veut, mais il peut dire très clairement qu'il veut quelque chose, n'est-ce pas? Nous trouvons en nous une capacité à vouloir. Et pensez à tout ce que vous voulez chaque jour. Combien de fois avez-vous senti un désir? Combien de fois avez-vous dit ou pensé « je veux » même aujourd'hui? Les êtres humains, c'est des êtres qui veulent constamment, n'est-ce pas? Nous sommes tous des vouleurs. C'est Dieu qui nous a créés comme ça. Il est donc logique que nous ayons un livre qui nous donne la sagesse nécessaire pour gérer cette caractéristique, cette capacité à désirer, ce fait d'être vouleur. Donc, plus fondamentalement que le fait d'être un chant d'amour, le Cantique des Cantiques est un guide pour nous, pour nous entraîner à vouloir avec sagesse. Et il n'y a pas de camp d'entraînement plus approprié pour donner une leçon claire pour ceux qui veulent apprendre à être des vouleurs sages, que ce domaine du désir romantique, le domaine de notre vie terrestre où nous voulons si fortement et où nous désirons si profondément. Alors, qu'apprenons-nous ici à la salle de sport? Tout d'abord, en voyant la joie avec laquelle ce plaisir et ce désir sont célébrés, nous voyons que le désir est une bonne chose. C'est Dieu qui nous a rendus désireux. C'est lui qui nous a créés en tant que vouleurs. Le fait de vouloir n'est pas une mauvaise chose. Notre capacité à vouloir était son idée à lui depuis le début. Alors, ce n'est pas tout le monde qui le reconnaît. Le bouddhisme, par exemple, enseigne que le désir, c'est le désir qui donne lieu à la souffrance. La solution pour ne plus souffrir, c'est donc d'arrêter de désirer. C'est dans leurs quatre règles. On souffre tous, mais on souffre parce qu'on désire, et donc il faut juste arrêter de désirer et ça sera réglé. Mais la vérité, c'est que Dieu nous a créés pour être des vouleurs. Il est possible de désirer de bonnes choses et de trouver de la joie dans des bonnes choses, et c'est un don merveilleux de la part de Dieu. Mais le verset 7 est vraiment un verset clé ici, où la femme donne à ses amis une exhortation particulière par rapport au fait de vouloir de manière sage. Notez d'abord qu'elle les supplie par les gazelles ou par les biches des champs. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce la femme, est-ce juste la femme qui parle d'une manière un peu fleurie et poétique? Elle l'est, évidemment. Mais ce sont des animaux que nous trouvons tout au long du livre, utilisés comme des images pour exprimer l'amour romantique. Mais il se passe quelque chose d'autre ici. C'est un jeu de mots poétique, en fait. Et c'est un des endroits où le traducteur n'a aucune chance de représenter ce qui se passe. Et donc, je dois malheureusement vous donner un cours d'hébreu. Mais en hébreu, la langue originale de ce texte, le mot pour gazelle ressemble fortement au mot pour armée. Des gazelles tzvaot, des armées tzvaot. Et puis, biche des champs, la phrase aliot hasadeh ressemble pas mal au nom El Shaddai, et donc Dieu Tout-Puissant. Et donc, ça ressemble vachement du nom de Dieu, le Dieu des armées, Dieu Tout-Puissant. Ce sont des manières poétiques dans ce chant de parler de l'Éternel, de Yahvé. Qui a inventé l'amour romantique, le mariage, la sexualité? Yahvé Tzvaot, le Seigneur des armées, El Shaddai Tout-Puissant. Ce qui veut dire que c'est lui le Seigneur et le Maître de nos désirs. Nos désirs ne sont pas notre Maître. Nos désirs ne nous définissent pas. Ce n'est pas ce que nous voulons qui est la chose la plus importante au monde, contrairement à ce que dit le monde tout autour de nous. Tout le domaine de l'amour, du mariage et de la sexualité, et le domaine de nos désirs plus globalement, doit être soumis au Seigneur avec humilité. Ce qui veut dire que nous pouvons pécher contre lui par le fait de vouloir quelque chose. Pécher contre lui dans ce que nous voulons, mais aussi dans comment nous voulons. Soit mettre nos désirs au-dessus de lui, soit désirer quelque chose qui est interdit. Si vous voulez vous marier, c'est une bonne chose. Mais ce désir ne doit pas être votre Dieu. Il faut le désirer sous la seigneurie de notre Seigneur des armées. Vous voulez un bon boulot, peut-être, et c'est une bonne chose. Mais c'est un désir qu'il faut avoir dans le contexte de la soumission à notre Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Désirez-vous le plaisir sexuel en dehors du contexte du mariage, tel que Dieu l'a défini? Alors il s'agit de désirs que l'on doit confesser à Dieu avec repentance, puisqu'il s'agit de péché. Nous soumettons nos désirs au Seigneur avec repentance, en nous détournant d'eux. Et cela veut dire que ce sont des désirs que l'on... Si c'est des désirs qu'on doit confesser, et desquels il faut se repentir, ce sont des désirs qui peuvent être pardonnés aussi. Donc il ne faut pas mal gérer notre capacité à vouloir. Et puis nous regardons à la fin du verset 7, ce qu'elle exhorte spécifiquement, c'est qu'elle ne réveille pas l'amour avant qu'elle ne veuille, avant le moment approprié. Nous ne permettons pas à ce que nos désirs prennent le contrôle, mais avec l'aide de Dieu, nous devons les garder sous un contrôle de soi. Et nous voulons reconnaître que, aussi bon et fantastique que soit le désir et les délices de l'amour romantique, ainsi que toutes sortes de bonnes choses que nous pourrions désirer dans la vie, il y a un moment et un lieu pour toutes choses. Le fait que l'amour sexuel soit beau et joyeux ne veut pas dire que l'on le laisse prendre le contrôle. Ça veut dire qu'on le garde à sa place légitime, on le garde dans le contexte du lien du mariage, parce que c'est pour ça que Dieu a établi le mariage. La femme ne dit pas au verset 7 « Ne désirez jamais ça ». Elle dit d'être sage et obéissant dans notre manière de vouloir. Je le veux dans le contexte de la crainte du Seigneur, ce qui est bien sûr le commencement de toute sagesse. Alors, lorsque vous vous trouvez en train de vouloir quelque chose, que ce désir soit sexuel ou financier, ou que vous vouliez du pouvoir ou de la popularité, ou une plus belle maison, ou de meilleurs jouets, ou plus de livres, ou quoi que ce soit, on est appelé ici à demander, est-ce que je veux d'une manière sage? Est-ce que je confesse à Dieu les moments où je désire des choses pécheresses ou interdites? Est-ce que je reconnais que Dieu a créé cette capacité que j'ai à vouloir et que je dois l'utiliser pour sa gloire à lui? Est-ce que je désire quelque chose qui est bonne? Est-ce que je veux cette bonne chose d'une manière sage? Ai-je confiance en Dieu pour être le plus sage que moi, pour décider si j'obtiens cette chose ou non? Il y a toutes sortes de questions que des voleurs sages devraient se poser. Il vaut la peine de réfléchir à ces questions et quelles questions on pourrait se poser. Donc voici des devoirs pour vous cette semaine. Se poser la question et discuter entre vous, chez vous, à table, quand vous voulez. Quelles questions les voleurs sages se posent-ils? Quelles questions les voleurs sages se posent-ils? Donc c'est ça la leçon qu'on apprend à la salle de sport. Il ne s'agit pas seulement d'amour et de mariage, il est question de vouloir d'une manière sage. Mais il reste encore une manière dans laquelle ce cantique parle d'un peu plus d'une question d'amour et de mariage. Donc pour notre quatrième leçon et dernière leçon, je vous promets, nous devons aller au temple pour voir que c'est ça. Le temple où on apprend que c'est ça. Nous avons sous les yeux, bien sûr, le cantique des cantiques. Le premier verset du livre nous donne ce titre. C'est pas quelqu'un d'autre qui a inventé, mais nous voyons au début du livre, c'est le cantique des cantiques. Ça veut dire que c'est le meilleur des cantiques, meilleur de tous les cantiques du monde. C'est le top du top, la crème de la crème, le cantique des cantiques. Et il faut que nous avouions tous que même le mariage le plus beau, le plus pur, le plus passionné du monde n'est pas digne du meilleur des cantiques de tous les cantiques de la création. Le seul amour digne du cantique des cantiques est l'amour auquel le cantique, avec toute la Bible, attire notre attention. Ce cantique nous donne un aperçu de la façon dont Dieu nous aime, et en particulier comment le Christ a aimé son épouse, l'Église. Ici, notre regard est dirigé vers un Dieu qui nous aime profondément. Nous voyons un Dieu qui veut entrer dans une relation profonde, intime et permanente avec son peuple. Nous nous considérons à juste titre comme une fleur sauvage, avec tous nos péchés et nos désirs désordonnés, et pourtant il choisit de nous voir comme un lys parmi des ronces. Il fait de nous l'amour de sa vie. Comme je disais tout à l'heure, nous avons brisé l'idée du mariage. Nous avons fait au moins autant pour démanteler l'idée biblique de l'alliance, le mot qui décrit notre relation avec Dieu. Alliance, c'est un mot un peu lourd et théologique et technique, n'est-ce pas? On l'a transformé en un mot à la Malcolm Rifkin. Et peut-être vous êtes là ce matin et vous n'êtes pas chrétien, peut-être. Et tout cela ressemble à une expérience étrangère pour vous. Peut-être pour vous, le christianisme, c'est une relation lourde et coincée où je respecte les règles de Dieu et il me laisse entrer, mais à contre-cœur. Ou même si vous avez compris la bonne nouvelle de Jésus, c'est que cette bonne nouvelle, c'est qu'il m'offre le salut. Peut-être il vous est arrivé de penser qu'il fait ça, il fait sa part à contre-cœur à lui et après qu'il va là où il veut être vraiment au ciel, il veut vraiment être loin de nous. Mais comme nous l'avons vu tout à l'heure, le mariage biblique comprend à la fois la passion et des aspects pratiques. Tout cela sont des choses qu'il faut célébrer. Ainsi, notre alliance avec lui est aussi une relation intime d'amour passionnée qu'il faut célébrer. Même s'il y a le côté technique, légal, c'est à la fois une relation à célébrer. Jésus veut être avec son peuple. Il veut nous regarder dans les yeux. Il nous aime profondément. Et ce ne sont pas juste des mots. Par la puissance de son esprit, il veut faire grandir la famille. Et pendant qu'il ajoute de plus en plus de personnes à la famille, il construit la maison, son temple, son église, et il s'assure qu'elle durera toujours. Il nous protège, il pourvoit nos besoins. En fin de compte, il nous protège du malin. Il brise nos chaînes, comme il a crié de la croix. Pendant qu'il se sacrifiait pour nous, tout est accompli. Jésus a fourni les moyens d'être ramené à Dieu et il donne à chacun la vie de résurrection. C'est comme ça qu'il nous a aimés. Il nous amène à la maison du banquet, à la maison du vin, pour nous nourrir de pain et de vin, avec le grand festin qui nous attend. Et il nous soumet à lui-même avec son amour. Et sa bannière sur nous, c'est l'amour. C'est ce que ça veut dire pour lui de conclure une alliance avec nous. C'est ce que ça veut dire d'être chrétien, de vivre dans cette alliance. Quand on parle de l'histoire d'alliance de la Bible, bah sur le fond, c'est une histoire d'amour. C'est la meilleure histoire d'amour jamais racontée, célébrée par la meilleure de toutes les chansons, de tous les cantiques. Et nous nous aidons les uns les autres à attendre son retour. Nous nous rafraîchissons et nous nous soutenons mutuellement pendant son absence, même s'il est là avec nous par son esprit. Et en raison de nos situations différentes, si nous sommes des personnes sages, nous pouvons nous aider mutuellement à apprendre quelque chose de différent sur la façon d'attendre. Si vous êtes marié, par exemple, vous pouvez montrer la joie du fait de connaître le Christ, la joie éternelle dont votre mariage et cette chanson ne sont qu'un simple murmure. Si vous êtes célibataire et content de l'être ce matin, vous pouvez montrer comment le Christ, et non pas un époux terrestre ou une épouse terrestre, est la plus grande joie de notre cœur finalement. Si vous êtes célibataire mais vous voulez être marié, en le voulant avec sagesse, vous pouvez apprendre et enseigner à vos frères et sœurs tant de choses sur le besoin encore plus important du fait d'attendre le Seigneur et à attendre son retour. Ceux d'entre vous qui font face à toutes sortes d'épreuves et de pertes, lorsque vous regardez le Christ, vous trouverez en lui le réconfort et l'espérance. Pendant que vous regardez ce cantique comme un cantique qui est le vôtre avec le Christ, quelles que soient vos circonstances, quelle que soit la faiblesse avec laquelle vous le sentez, vous enseignez à vos frères et sœurs que le fait de connaître le Christ, c'est meilleur que toute autre chose que pourrait nous proposer le monde. Ceux d'entre vous qui font face à la tentation de vouloir à tort, lorsque vous trouvez la joie et l'amour dans le Christ, vous montrez à vos frères et sœurs qu'il est meilleur que tout plaisir terrestre et vous montrez la persévérance et la joie de sa grâce. Il y a toutes sortes de choses que nous pouvons apprendre sur cette chanson et sur le Christ à partir de nos différents points de vue et perspectives. Et nous pouvons nous rafraîchir et nous soutenir les uns les autres en attendant le Christ ensemble. Quelles que soient nos circonstances, louons Dieu. Parce que c'est grâce à lui que nous pouvons chanter ensemble des chants comme celle-ci, à lui seul et pour toujours. L'enfer, la mort, ni la vie, rien ne peut de son amour priver mon âme ravie. Que le monde soit détruit et que le soleil s'éteigne. Jésus vit et Jésus règne. Il est à moi. Je suis à lui. Il est à moi. Je suis à lui. Martin Luther a dit que cette phrase qui se trouve plus tard dans le chapitre 2, il est à moi, je suis à lui, c'est vraiment le résumé pour expliquer l'union avec le Christ. Il est à moi, je suis à lui. C'est ça notre privilège en Christ. Prions ensemble. Notre Père, nous te remercions pour ce privilège de pouvoir dire que Jésus-Christ est à nous et nous sommes à lui et nous partageons cette relation d'amour avec lui, avec toi, par lui. Aide-nous tous à être des vouleurs sages et apprendre à partir de ce cantique comment vouloir avec sagesse, sous ta seigneurie. Aide-nous à nous repentir pour les désirs que nous avons qui sont des mauvais désirs, ou si nous avons désiré de façon fou, de façon folle. Nous prions que tu nous aides à nous repentir de ça et mettre notre foi en Jésus-Christ pour ta gloire. Aide-nous à être un soutien les uns pour les autres en attendant le retour du Christ, et aide-nous à attendre avec foi ce retour et célébrer le grand festin du mariage de l'agneau. Nous prions toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.